France Culture.
France Culture, salle des archives, les animaux de la ferme. Épisode 5, la milice à les crocs. Commençons avec un rappel des épisodes précédents. L'écrivain anglais George Orwell a composé une fable qui raconte l'autoritarisme du régime communiste en URSS. Le livre a paru en 1945 et il s'appelait Animal Farm, en français « La ferme des animaux ». Mais comment Orwell avait-il choisi quels seraient les animaux qui incarneraient ses personnages? Pourquoi le cheval représente-t-il le bon peuple? Pourquoi les tyrans sont-ils peints sous les traits de cochons? Et pourquoi Orwell a-t-il fait l'impasse sur les bovins qui sont pourtant les animaux les plus emblématiques de la ferme? De tout cela, nous avons parlé durant les épisodes précédents. Même s'il ne dispose que d'un second rôle dans la fable, un animal a été traité d'une façon particulière par Orwell, et cet animal, c'est le chien. Le chien est en effet le seul personnage qui soit réellement effrayant. Même Napoléon, le cochon qui représente Staline, ne fait pas faire de cauchemars aux enfants, parce qu'un dictateur à petite queue tire-bouchonnée, franchement, ça n'appelle pas la terreur nocturne. Évidemment, il faut se méfier de l'effet queue tire-bouchonnée, car la plupart des dictateurs de l'histoire ont eu d'abord l'air plutôt ridicule avant d'avoir l'air effrayant. Le dictateur ne se présente jamais sous la forme d'un monstre à la Sauron, pas au premier date en tous les cas. Il se présente plutôt sous le masque d'un tranquille père de la nation comme Staline, d'un bouffon énergique comme Mussolini, voire d'un curé au service du peuple comme Salazar. En général, le dictateur est même plus risible qu'effrayant jusqu'au moment où c'est vous qui êtes dans son viseur. Et là, c'est une autre histoire. Dans la fable d'Orwell, le cochon n'est donc pas aussi perturbant que l'animal qui le sert directement, c'est-à-dire le chien. En réalité, ça n'est pas tout à fait illogique. Le dictateur se protège dans une apparence de civilité. Il est retranché dans son palais, comme les cochons dans l'ancienne maison du fermier qu'ils ont annexée, et où il couche même dans son lit. Mais il a besoin d'un bras armé, ou plutôt d'une patte armée, pour faire le sale boulot. Et là, bonjour le chien. Les chiens sont donc les seuls animaux à charrier une aura réellement angoissante dans la fable. Il faut dire que leur histoire personnelle est glaçante. À leur naissance, les 9 chiots de Jessie et Blue Ball ont en effet été enlevés à leurs parents et on ne les a pas revus durant de nombreuses pages. Que leur est-il arrivé? Ont-ils été emprisonnés, frappés, torturés? L'histoire n'est pas très précise sur ce point, mais on découvre au fur et à mesure qu'on leur a lavé le cerveau jusqu'à les traumatiser. Ils ont été placés directement auprès de Napoléon, qui les a endoctrinés pour en faire des animaux serviles et policiers à la solde de son pouvoir. Privés de parents, hargneux, méchants, entraînés à combattre, ils réapparaissent au chapitre 5 au moment où la dictature de Napoléon se met véritablement en place. Ils représentent alors la jeunesse embrigadée, obsession de tous les régimes autoritaires. Jusque-là, la Révolution avait conservé un semblant de pluralisme et de démocratie. Boule de neige notamment, le cochon qui représente Trotsky, avait encore voix au chapitre et ses idées n'étaient pas toujours alignées avec celles de Napoléon. Mais c'était seulement le temps pour le cochon en chef d'élever ses chiens, autrement dit de mettre sa milice sur pied.
À ce moment, toutefois, Napoléon se leva, jeta sur Boule de Neige un regard oblique et singulier, et poussa un gémissement dans l'aigu que personne ne lui avait encore entendu pousser. Sur quoi ce sont dehors des aboiements affreux, et bientôt se rut à l'intérieur de la grange 9 molosses portant des colliers incrustés de cuir. Il se jette sur Boule de Neige, qui de justesse échappe à leur croc. L'instant d'après, il avait passé la porte, les chiens à ses trousses. Alors, trop abasourdis et épouvantés pour élever la voix, les animaux se pressèrent en cohue vers la sortie pour voir la poursuite. Boule de Neige détalait par le grand pâturage qui mène à la route. Il courait comme seul un cochon peut courir, les chiens sur ses talons. Mais tout à coup, voici qu'il glisse et l'on croit que les chiens sont sur lui. Alors, il se redresse et file d'un train encore plus vif. Les chiens regagnent du terrain et l'un d'eux, tout gros dehors, et sur le point de lui mordre la queue quand de justesse il l'esquive. Puis, dans un élan suprême, Boule de Neige se faufile par un trou dans la haie, et on ne le revit plus.
Et voilà Trotsky Boule de Neige exilé à l'étranger, où d'ailleurs dans la vraie vie, il sera bientôt assassiné par la police politique de Staline. Alors évidemment, cette interprétation de Claude Pieplu dans une archive de 1995 a tendance à rendre bonhomme la poursuite de Boule de Neige par les chiens. Mais les crocs des molosses n'en sont pas moins acérés et les animaux de la ferme épouvantés.
Les animaux de la ferme. Une série proposée par Mathieu Garrigou-Lagrange, réalisée par Delphine Lemaire. Attachée de production, Lily Cornaer.
Jessica Serra, vous êtes éthologue et spécialiste de la cognition animale. Vous avez publié plusieurs ouvrages, parmi lesquels « Le monde secret du chien » aux éditions Humaine Science. Que vous inspire d'abord le fait que Orwell ait choisi des chiens pour représenter les policiers au service de la dictature ?
Ah, ça m'inspire pas mal de choses, parce que le chien, justement, on l'a toujours vu comme un animal assez servile, qu'on pouvait modeler, façonner comme on le souhaitait. Et finalement, on en oublie que la domestication, c'est pas seulement la domination de l'homme sur le chien, mais c'est aussi une relation donnant-donnant, en tout cas dans le cas du chien. Quelque chose de l'ordre, je te donne et tu me donnes en retour, donc une association plus qu'un phénomène de domination comme on l'imagine souvent.
Alors vous citez d'ailleurs dans votre livre une citation de Buffon qui correspond parfaitement au rôle du chien chez Orwell, je la donne. « Comment l'homme aurait-il pu, sans le secours du chien, conquérir, dompter, réduire en esclavage les autres animaux ?»
Ben je trouve que Buffon avait déjà une intuition très juste, parce qu'il faut rappeler que le chien, c'est la première espèce domestiquée. Il y a environ 30 000 ans, donc c'est énorme hein, comme dans l'histoire de l'humanité. C'est la première espèce domestiquée et ensuite les autres espèces vont être domestiquées bien plus tardivement. Et à ce moment-là, il faut rappeler que l'être humain ne cultive rien, il n'élève rien. Et pourtant, à un moment clé de notre histoire, eh bien, un de nos ancêtres a très probablement ramené un jeune loup dans la famille humaine. Et cet événement va littéralement bouleverser le cours de l'humanité.
Donc on a besoin en tant qu'humain du chien et ça nous a même servi à notre espèce à nous dans notre évolution. On serait peut-être allé moins loin, moins vite si on n'avait pas eu les chiens à nos côtés.
Complètement, c'est quelque chose dont je suis convaincue et d'ailleurs ce dont je vous parlais, ça a été illustré par l'expérience du chercheur Pierre Jouventin dans les années 70 qui a adopté un louveteau dans sa famille et qui a analysé au jour le jour les comportements de cette louve qui a grandi et qui a montré donc non seulement l'attachement dont a fait preuve cette louve envers sa famille humaine mais également les comportements altruistes de protection, de défense et donc cette alliance avec le loup a certainement aidé à propulser l'humain au sommet de la chaîne alimentaire. Et l'humain va devenir le super prédateur numéro un, capable à la fois de chasser tout type de proie, mais surtout de se défendre face à tout type de prédateurs. Et c'est finalement ce que Buffon avait perçu. Hein. Sans le chien, l'humain n'aurait probablement jamais eu cette avance décisive sur les autres animaux.
Donc le chien et l'homme font équipe depuis bien longtemps. Et c'est vrai que le chien, on l'envisage souvent comme un chien de garde. D'ailleurs, c'est un peu la vision qu'on a du Cerbère, c'est-à-dire le gardien de la porte des enfers dans la mythologie grecque. Donc le chien protège son maître comme les chiens protègent Staline le cochon.
Oui, tout à fait. Et ça leur vient de leur ancêtre le loup, puisqu'il faut savoir que le loup, c'est un animal hautement social qui vit en meute, qui protège les membres de sa meute. Et donc, finalement, il ne fait que manifester des comportements ancestraux. Sauf qu'au lieu de s'attacher à ses congénères, là, il s'attache à une famille humaine.
Les chiens de la fable d'Orwell sont donc des chiens de garde conditionnés pour l'attaque. Ils font penser à ces bergers allemands ou à ces pitbulls que certaines personnes élèvent pour les rendre le plus agressifs possible. Ce sont ces chiens qu'on dit méchants, qui gardent les maisons à la campagne et rendent les promenades un peu moins agréables. En réalité, les chiens cherchent plutôt à défendre qu'à attaquer. Dans la salle des archives, on tombe sur une émission de 1980 à propos d'un très gros chien de berger pyrénéen qu'on appelle le Patou. Chargé de défendre les troupeaux contre l'ours, il se bat, lui, pour la bonne cause. Il n'en reste pas moins un animal impressionnant.
Cet énorme chien blanc dont la race revient à la mode, ce colosse, de 60 à 80 kilos au croc impressionnant, il fut pendant des siècles le seigneur des alpages. On le voyait la nuit perché sur un rocher aux aguets, avec autour du cou le célèbre collier à pointe, dont il nous reste quelques exemplaires.
Ils avaient pour but, d'accord, de protéger le chien contre la morsure des ours, contre les attaques des ours. Mais ils avaient également un autre rôle qui n'était pas non négligeable, qui était peut-être essentiel, c'était qu'ils gênaient les pauvres chiens la nuit. Lorsque le berger prenait son repos dans sa cabane, la nuit, il ne manquait pas de mettre ses chiens, parce qu'ils avaient toujours deux ou trois chiens, à proximité de la cabane, mais toujours munis de ces fameux colliers à pointe qui empêchaient les pauvres bêtes de se coucher la nuit. C'était leur infliger, disons, un supplice. Les pauvres chiens ne pouvaient pas se coucher, ils se piquaient mutuellement les uns aux autres. Ils restaient debout en état de veille. C'était justement, je crois, davantage pour les protéger, pour les mettre en état de veille que pour les protéger vraiment de la dent de l'ours. C'est de très jolies bêtes. Et si elles sont bien traitées, c'est des bêtes très pacifiques. Là, les gamins peuvent mettre leurs menottes dans la gueule d'un chien de montagne. Je suis sûr qu'il ne leur sera pas fait de mal. Mais par contre, si leur faites un mauvais tour, si vous les battez, elles se rappellent très bien. Alors là, c'est fini. L'amitié, c'est terminé.
Jessica Serra, que retenez-vous de cet extrait ?
Je retiens qu'il y a beaucoup de mythes qui ont circulé, notamment dans les années 70-80, et qui continuent de circuler aujourd'hui sur la pseudo-agressivité naturelle du chien, sur son sens de la hiérarchie, en lien ou pas avec le loup, hein, parce qu'on dit souvent que le chien est un animal hiérarchique parce qu'il aurait hérité cela de son ancêtre le loup. Or, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le fameux sens de la hiérarchie du loup, la hiérarchie linéaire, en tout cas, vous savez, le fameux couple alpha chez les loups, c'est un pur mythe qui a été avancé par un chercheur dans les années 40 qui a étudié une meute de loups captifs et qu'aujourd'hui on sait qu'une meute de loups c'est quoi ? Eh bien, c'est un couple reproducteur et ses jeunes. Donc évidemment, il y a un respect mutuel, il y a des règles au sein de la meute, mais on n'est pas du tout sur le mythe du dominant-dominé comme on l'imagine.
C'est juste une famille alors, c'est ça ?
Tout à fait, c'est juste une famille.
Donc on obéit aux parents, c'est logique, c'est
exactement, ça. Les parents mettent des règles en place et les petits réagissent dans le bon sens ou dans le mauvais sens, et quand c'est dans le mauvais sens, ils sont réprimés d'ailleurs. Mais ce mythe voilà, du chien à dominer par l'humain ou du chien dominant-dominé entre les congénères, il est à bannir parce qu'il va biaiser considérablement la relation à l'animal. On en parlait tout à l'heure. Le chien, c'est un partenaire de l'humain. C'est aussi ce qu'on appelle un animal néoténique, c'est-à-dire c'est un animal qui a conservé des caractéristiques juvéniles à l'âge adulte, c'est-à-dire c'est un louveteau dans le corps d'un adulte qui va fortement s'attacher à l'humain, qui a su apprendre au cours de l'évolution, de sa coévolution avec l'homme, à interagir avec lui. Et aujourd'hui, on se dit, non, il faut lui mettre la tête dans son urine pour lui apprendre la propreté, il faut qu'il mange après nous, mais tout ça, ça n'a aucun sens scientifique.
Donc, le chien n'est pas soumis à son maître comme on en a le sentiment, parce que c'est vrai qu'on a tendance à voir les chiens comme étant dépendants de leur maître.
Alors complètement, il y a cette notion de dépendance, mais pas du tout de soumission, au sens où on l'entend, c'est-à-dire que le chien effectivement va suivre son maître au doigt et à l'œil, mais pas parce qu'il y est soumis, mais un peu parce qu'il est attaché à lui, comme il va l'être auprès de son père ou de sa mère dans une meute de loups.
Alors tout à l'heure, vous disiez que les chiens étaient un peu des loups qui n'avaient pas forcément grandi, qui seraient restés adolescents, et en effet, il y a des comportements qu'on trouve chez les chiens, comme de remuer la queue ou d'aboyer beaucoup, qui sont des comportements de jeunes loups, mais que les loups adultes non plus.
Tout à fait. En fait, ce sont des comportements néoténiques, c'est-à-dire que le loup qui s'est transformé en chien a finalement préservé certains comportements juvéniles pour mieux communiquer avec l'humain. Et c'est quand même assez fascinant quand on y pense. Les aboiements notamment, les loups aboient quasiment pas, c'est surtout les louveteaux qui jappent. Et en fait, les chiens ont développé les aboiements pour se faire comprendre des humains. Et d'ailleurs, il y a des études scientifiques qui ont été menées là-dessus qui montrent que les humains, même lorsqu'ils n'ont jamais été familiarisés à des chiens, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais eu de chien de leur vie, savent tout à fait, en entendant des aboiements, reconnaître dans quelles circonstances ont été émis ces aboiements. Est-ce que ce sont des aboiements d'alerte, de peur ? Est-ce que ce sont des aboiements finalement d'un individu isolé qui serait en détresse, et bien ça, les humains savent parfaitement identifier ce que veut dire le chien à travers l'aboiement.
«
On a recensé dans le monde 420 races de chiens, dont 260 rien qu'en France. Ils peuvent être classés en différentes catégories. Chiens de berger, chiens de garde, terriers, teckels, chiens nordiques de type husky, chiens d'arrêt ou bien encore lévriers. Chacune de ces espèces de chiens a ses propres caractéristiques. On leur associe une symbolique différente, on leur assigne aussi des fonctions différentes.
Les chiens, par exemple, eh bien, il y a diverses sortes de chiens. Il y a le chien de chasse. C'est très souvent l'ami de l'homme, du mari, du père de famille. Les autres chiens, les chiens de berger en particulier, sont plus aisément les amis de la femme et des enfants. Je ne parle pas du chien de garde qui, lui, est très souvent un malheureux animal. On le maintient trop souvent dans des conditions lamentables, attaché court, de jour et de nuit. Et nourri, c'est le paria, c'est le galérien qui est rivé à sa place. Je me vois encore, il y a 3 ans de ça, j'entre dans une ferme en Dordogne et il y avait un chien, une espèce de vague bâtard de berger allemand qui hurlait au bout d'une chaîne. Et je m'approche, bien sûr. On me dit, il ne faut pas vous approcher, il est méchant. Mais pourquoi est-il méchant? Parce qu'il est attaché tout le temps. Et il est attaché tout le temps depuis combien de temps? Depuis 7 ans. J'ai dit au bonhomme, ben moi monsieur, si j'étais attaché depuis 7 ans, je vous aurais bouffé il y a longtemps. Je me suis approché du chien. J'ai détaché le chien, j'ai acheté le chien, et depuis 3 ans, j'ai ce brave vieux Blacko qui m'accompagne tous les jours à mon bureau, qui est devenu un Parisien et qui est la crème des chiens.
Là, c'était un cas de, disons, de méchanceté involontaire parce qu'on n'avait pas raisonné sur, disons, sur l'état d'âme du chien. On acceptait l'animal comme une chose, en soi.
Mais on raisonne assez peu souvent sur l'état d'âme des animaux. Il y a ceci de curieux, c'est que nous sommes tout de même au XXe siècle, nous sommes capables de comprendre les langues les plus anciennes, de reconstruire les civilisations disparues depuis longtemps, et puis on est incapable de savoir ce que vous dit votre chien, ce que vous dit votre chat, qui vous disent quelque chose.
Alors les animaux qu'on voit en chaîne, s'il en reste, c'est plutôt par exemple des bergers allemands ou des gros chiens. On voit mal un chihuahua par exemple enchaîné dans un jardin. Est-ce que c'est parce qu'on a des représentations très différentes des différentes espèces de chiens ou est-ce que c'est parce qu'elles ont en effet des caractéristiques très différentes? Autrement dit, est-ce que c'est notre regard qui les différencie ou est-ce qu'elles sont très différentes dans les unes des autres, ces espèces de chiens?
Je dirais les deux. On sait qu'il y a un facteur race qui va impacter la personnalité du chien. Il y a des chiens qui ont été façonnés par l'humain pour justement monter la garde. Il y en a d'autres qui ont été façonnés purement sur des critères esthétiques ou de miniaturisation. Ceci étant, peu importe le chien que vous enchaînez, c'est toujours une maltraitance. Peu importe le chien que vous enfermez dans une cage 23 heures sur 24, c'est toujours une forme de maltraitance, y compris chez le chihuahua. Parce que là encore, sous prétexte que c'est un chien miniature, on peut l'enfermer dans un sac dans le métro toute la journée. Non, le chihuahua, je vois de plus en plus, je ne sais pas si vous le voyez aussi, mais des chiens se promener en poussette. Mm-hmm. Mais à un moment donné, lâchez votre chien par terre, vous verrez, le chien, il a besoin, son besoin primordial, c'est de renifler des odeurs. Sa sensorialité privilégiée, c'est l'odorat. Laissez-le donc respirer au sens premier du terme, renifler des odeurs, parce que c'est son monde à lui. Et quand on prive un chien de marcher, de s'enivrer des odeurs de ses congénères, etc., on est sur une forme de maltraitance aussi.
À l'inverse des molosses dépeints par Orwell, la plupart des chiens sont aujourd'hui dressés et sélectionnés pour être les plus amicaux possibles. On les veut affectueux, ils sont un appui psychologique à nos vies. Or, la psychologie, du moins sur France Inter, c'était le domaine de Macha Béranger. Écoutez cet extrait d'une auditrice qui appelle dans la nuit le studio de Macha pour lui parler de ses chiens.
Allô ?
Allô, Macha ?
Oui, bonsoir, qui est là ?
C'est Catherine.
Oui, Catherine.
J'ai le trac.
Vous avez le trac ? Non, faut pas. De quoi voudriez-vous parler, Catherine ?
Je voulais vous dire que j'étais heureuse, je voulais en faire profiter tout le monde.
Ah, vous êtes une dame heureuse. Quel bonheur d'entendre ça, ça me fait plaisir.
Oui.
Racontez-moi alors un petit peu.
Mon but dans la vie a été les bêtes.
Les bêtes?
Oui.
Oui.
Et j'ai réussi à acheter une ferme. Ça fait 2 ans.
Oui.
Je me suis entourée de chiens, de chats, de chevaux.
Vous faites de l'élevage aussi?
J'en fais plus parce qu'il y en a trop. Il y a trop de chiens sur la terre en ce moment. Alors on évite. Hein.
Alors, est-ce que vous ramassez les chiens perdus?
Oui, j'ai ramassé les chiens perdus.
Ah, vous ramassez les chiens perdus.
Oui, on a
Et vous n'arrivez pas à les caser, vous les gardez?
Mais non, j'arrive à les caser. Hein. J'ai fait quelques annonces et je viens d'en caser 5
oui.
Les derniers jours.
Oui.
Et j'en ai encore environ 5 à placer. J'ai de l'espoir.
Alors le son n'est pas très bon, mais on entend quand même dans le ton de la voix de Catherine, l'auditrice, l'importance que ces chiens ont pris dans sa vie. Qu'est-ce que vous retenez de tout cela, Jessica Serra ?
Plusieurs choses. D'abord qu'il y a quand même beaucoup de bonnes âmes qui dépassent la frontière homme-animal que beaucoup ont créée pour aider tous les animaux. Puis il y a aussi cette particularité, c'est que l'animal peut être quelque part un palliatif à l'humain pour certaines personnes qui sont parfois très seul. C'est-à-dire qu'on sait que l'animal va jouer un rôle pour pallier à la solitude, notamment. Mais pas que. Hein. On a des grandes familles qui adoptent un chien et c'est une sorte de ligand social, le chien, dans ce contexte-là. Mais le chien joue aussi ce rôle, ou le chat, finalement, de rendre moins solitaire la personne, de lui donner une responsabilité, de lui tenir compagnie. Et finalement, c'est le rôle du chien depuis des millénaires, tenir compagnie à l'homme, hein, au-delà de son rôle utilitaire.
On a l'impression qu'on peut communiquer plus facilement avec un chien qu'avec d'autres animaux, parce qu'ils sont peut-être plus expressifs. Est-ce que c'est le cas ?
C'est le cas, effectivement. Pourquoi ? Parce que c'est pas une vue de l'esprit. Quand on parle à son chien, on n'est pas complètement fou, gaga. Là aussi, il suffit d'être dans la rue et de voir les chiens, les humains, comment ils s'adressent à leur chien. C'est assez rigolo à regarder, parce que tout de suite, on les voit adopter un ton très aigu. On les voit articuler de manière exagérée, en accentuant les voyelles. C'est ce qu'on appelle le parler chien, qui est assez similaire au parler bébé. Et en fait, ce type de langage, il n'est pas dénué de tout intérêt, parce qu'il va permettre de capter l'attention du chien et de favoriser pour le chien la compréhension et la mémorisation de nos mots humains.
Donc on a raison de parler à nos chiens comme on parle à des enfants.
Complètement. On a raison de leur parler comme ça, parce qu'on sait aujourd'hui, là encore, études scientifiques à l'appui, que les chiens sont capables d'enregistrer en moyenne au moins 80 mots. Évidemment, avec des exceptions comme Chaser, le border collie, qui avait appris 1022 mots humains. Et on est loin encore de tout savoir sur la facilité qu'a le chien de comprendre les mots humains. On sait en tout cas qu'il ne fait pas que les enregistrer, il comprend leur signification. Et d'ailleurs, les chiens ont appris à comprendre ces mots. Ils ont appris aussi à se faire comprendre, on en a discuté tout à l'heure, de nous, à travers leur langage corporel, leurs mouvements, leurs aboiements, le battement de leur queue ou encore la position de leurs oreilles. Et puis, les chiens nous décryptent aussi avec une précision absolument étonnante. C'est-à-dire qu'ils vont se fier, par exemple, à notre regard. Ils savent aussi déchiffrer les expressions de notre visage. Ils font la différence en regardant nos visages entre la colère, le dégoût, la joie, la peur. Donc ça montre à quel point leur cerveau est câblé pour comprendre nos états émotionnels et surtout adapter leur comportement en conséquence.
Tu es bien sage, dis donc, toi, Titus. Comment ça se fait ? Mais raconte-moi, tu es crevé ou quoi ? Eh non, ne me lâche pas. Non, non, non. Raconte-moi simplement ce que tu as fait ce matin. Raconte-moi, Titus. Vas-y. Viens. Viens ici, viens. Viens me dire si tu as bien travaillé.
Oui. Tu as bien travaillé, va. Oui, 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 oui. Cagnasse. Oui, 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 oui. Et non.
Viens. Vous avez failli le perdre hier.
Oui. Ben, il a disparu. Je ne sais pas où il est passé. On ne le voyait plus. Alors, il devait être parti avec un autre chien, Germain.
Vous étiez malheureux, hein ?
Oui, très malheureux, oui. Ah oui ? C'est mon compagnon, il reste toujours avec moi toute la journée.
Qu'est-ce que vous auriez fait ?
Eh bien, je serais parti chez moi, aller me chercher la voiture et revenir me le chercher le lendemain, jusqu'à ce que je le trouve.
Vous auriez refait une journée de marche ?
Oui, oui, ah oui. Ah ben oui, alors, hein. Même deux s'il fallait. Même trois, je serais même revenu à Ouillet s'il avait fallu, hein.
C'est magnifique parce qu'on sent tout de suite l'amour que le maître porte à son chien. Et là encore, on sous-estime souvent le lien qu'il peut y avoir entre un chien et son humain. Et notamment, les personnes qui n'ont jamais eu de chien ont du mal à comprendre ça. Et pourtant, c'est un lien d'attachement qui est extrêmement fort, qui est finalement, quand il se brise à travers la perte du chien, parce qu'en général, le chien part avant le maître, est extrêmement douloureux à vivre pour l'humain. Et on a de plus en plus les langues qui se délient, puisqu'il y a encore 30 ans, quand on perdait son chien, on n'osait pas pleurer au bureau, par exemple. Aujourd'hui, on parle de la possibilité d'instaurer un jour de congé pour pouvoir faire le deuil de son chien, ou en tout cas, pour pouvoir éviter d'arriver au boulot en pleurant son chien.
Dans l'archive, il est question d'un chien qui se perd, mais un chien, ça ne devrait pas vraiment pouvoir se perdre parce qu'ils ont une sorte de boussole dans la tête, expliquez-vous, Jessica Serra.
Oui, alors la majorité, on va dire, moi en tout cas par exemple, je compte beaucoup sur ma chienne quand je pars en balade parce que la boussole dans la tête, malheureusement, je ne l'ai pas. Et en plus, quand je pars très loin dans la forêt, j'ai plus de portable, donc je capte plus, donc je suis totalement perdue par moment. Et ma chienne retrouve le chemin pour moi. D'ailleurs, ça a été une des vocations premières des chiens renifleurs ou des chiens qui ont été utilisés, notamment pour les chiens d'avalanche, pour permettre de retrouver le chemin avant de retrouver finalement les personnes enfouies. Et donc, oui, les chiens vont d'abord se fier à leur olfaction, qui est absolument remarquable. Rappelons que le chien possède 250 millions de cellules olfactives contre seulement 5 millions chez l'homme. Donc ça va lui permettre de détecter des odeurs qui sont absolument inaccessibles pour l'humain, à des concentrations très faibles et simultanément. Donc chaque lieu, chaque personne, chaque objet a une empreinte olfactive, ce qui explique pourquoi un chien perdu peut parfois retrouver son chemin ou reconnaître quelqu'un longtemps après l'avoir croisé. Et puis, et ça c'est des études récentes qui semblent étayer cette hypothèse d'une détection probable du champ magnétique terrestre par le chien, qui expliquerait que des chiens perdus à des centaines de kilomètres de leur domicile et qui n'avaient pas fait le trajet aller, soient capables de faire le trajet retour en marchant, et non pas sur la base de l'olfaction, parce que là, percevoir les odeurs de son domicile à des centaines de kilomètres, ça paraît improbable, mais sur la base du champ magnétique terrestre.
Est-ce que le chien peut sourire ?
Alors le chien peut sourire, là aussi, c'est d'ailleurs la couverture de mon livre, c'est un chien qui sourit. J'ai tenu à ce que ce soit cela, parce que ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas finalement on se dit oh, ben, il est juste en train d'ouvrir la bouche, c'est par mimétisme, etc. Le chien, au cours de sa coévolution avec les humains, a développé des muscles de la face spécifiques qui n'existent pas chez son ancêtre le loup, des muscles zygomatiques qui lui permettent de sourire à la manière d'un humain. Donc là encore, quand votre chien vous sourit, la mienne le fait. Alors, toutes les races sont moins prédisposées parfois à sourire. Mais moi, j'ai une croisée berger australien. Elle sourit en découvrant ses gencives, en plissant ses yeux. Mais vraiment, son visage devient une grimace à part entière. Et c'est assez fabuleux pour la maîtresse qui voit sa chienne lui faire la fête, parce que il y a tout de suite quelque chose qui se produit entre nous. Et on sait d'ailleurs que les retrouvailles, le simple échange de regards entre un chien et son humain va augmenter le taux d'ocytocine chez l'un comme chez l'autre et renforcer le lien d'attachement. Et donc, au cours de son évolution, c'est quand même... Enfin, moi, je suis toujours sidérée de me dire que le chien a développé des muscles pour mieux communiquer avec nous. Je trouve ça fabuleux.
Cet enregistrement de chien de ferme date de 1955. Il a été capté par des techniciens de la RTF pour servir de bruitage sonore. Car les animaux ont été, depuis les débuts de la radio, bien souvent enregistrés, comme nous allons le voir au début du prochain épisode, consacré à ces sphinx mystérieux que sont les chats. Nous nous demanderons si Orwell a eu raison de les peindre sous les traits d'un animal indifférent.